Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Roussillon.
Bonjour, bonjour et bienvenue pour votre carnet de région, le magazine d'actualité que vous propose des radios associatives du Languedoc-Roussillon. Cette semaine encore, c'est Radio Lodève qui en assure la rédaction en chef. Au sommaire, l'INSEE qui a rendu son bilan sur la conjoncture et elle n'est pas bonne pour le troisième trimestre en Languedoc-Roussillon. Nous parlerons de la réindustrialisation à Alès d'un ancien site métallurgique, l'ancien site Richard Ducrot. Les salariés de la Banque de France étaient en grève cette semaine à Béziers. Le ministre de l'économie sociale et solidaire Benoît Hamon était dans l'Aude en début de semaine à Carcassonne puis à Narbonne pour parler notamment d'emplois d'avenir. Le président de région Christian Bourquin était quant à lui à Mende dans le Lozère pour les vœux à la presse, l'occasion de revenir sur la création d'un réseau de la romanité. La commission départementale de la coopération intercommunale a tranché sur la mise en œuvre d'une grande intercommunalité dans les Hauts-Cantons héraultée au 1er janvier 2014. Enfin, nous terminerons ce carnet par un projet d'habitat groupé qui se développe du côté de Saint-Hippolyte-du-Fort dans les Cévennes gardoises. 4500, c'est le nombre d'emplois perdus dans la région au troisième trimestre 2012. L'INSEE a rendu son bilan sur la conjoncture et elle n'est pas bonne. Aucun rebond de l'économie en Languedoc-Roussillon, pas plus que dans le reste de la France. On fait le point avec Francis Vénard, directeur de l'INSEE Languedoc-Roussillon. Des propos recueillis par Florent de Brito de RCF Maguelone-Hérault.
On a des secteurs qui ont un petit peu baissé, comme l'hôtellerie-restauration, comme la viticulture, mais qui finalement montrent que les résultats sont pas si mauvais que ça. Par contre, là où il y a vraiment de grosses interrogations, c'est encore le bâtiment et la construction, qui depuis le début de la crise sont en chute assez importante et qui continuent leur chute, leur destruction d'emplois. Et puis là, quand même, nouvelle assez mauvaise sur les services. Les services avaient traditionnellement une bonne résistance dans l'économie régionale. L'interrogation qu'on a, c'est en effet, est-ce qu'on n'est quand même pas un petit peu dans une fin de résistance de l'économie qu'on appelle présentielle, c'est-à-dire l'économie qui est destinée à rendre service aux populations, résidentes ou touristes. Et en termes de consommation, peut-être que le chômage ou les impôts pèsent sur le pouvoir d'achat, ça c'est sûr, et que ça peut avoir des conséquences sur la consommation. On a vu que depuis le début de la crise, la contribution aux destructions d'emplois, même ne serait-ce que l'année 2012, les trois premiers trimestres montrent que c'est surtout l'intérim. Sur les 3800, je crois que c'est 2500 emplois intérimaires. Par contre, au dernier trimestre, il y a que, je dirais, 150 emplois intérimaires détruits. Donc on a passé peut-être un cap là, et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on n'a pas touché un peu le fond de la destruction d'emplois intérimaires et qu'ensuite on passerait à des destructions d'emplois plus longs, CDD ou même CDI. Prévision nationale prévoit un quatrième trimestre assez mauvais deux premiers trimestres de l'année 2013 plutôt en reconstruction économique, quoi, avec un PIB qui serait autour de 0,1 pour chacun des trimestres. Donc ça, c'est plutôt bon. Ce qui est moins bon dans ces deux premiers trimestres, c'est que en fait, on va continuer d'étirer les emplois. Sans doute que, en fait, ça correspond à un ajustement. La crise se prolongeant, les entreprises peuvent pas continuer à garder de l'emploi. L'emploi qui aurait plutôt été détruit avant, on le détruit un peu avec un effet retard, quoi.
À la fin de l'année 2010, la société métallurgique Richard Ducrot, installée à Alès depuis un siècle et demi, était rachetée par le groupe Faya qui, faute d'un carnet de commandes suffisant, était obligé de placer l'entreprise en redressement judiciaire, suivi quelques mois plus tard par une liquidation. Une liquidation qui laissait alors 230 emplois sur le carreau. Hors les luttes politiques traditionnelles entre un syndicat CGT majoritaire et une mairie dirigée par l'UMP Max Roustan, ce dernier décidait de tout mettre en œuvre pour faciliter une reprise d'activité sur le site. Deux ans après la liquidation de cette institution industrielle alésienne, la municipalité semble en passe de réussir son pari. À ce jour, trois entreprises métallurgiques et 140 emplois ont réinvesti les ateliers Richard Ducrot. Lors d'une visite de presse, le maire d'Alès, Max Roustan, exprimait sa légitime satisfaction au terme de plusieurs mois de péripéties et de prises de risques.
Écoutez, je crois que deux ans après la malheureuse affaire de Richard Ducrot, on est quand même fiers aujourd'hui de montrer que cette entreprise, sur son site, retrouve le nombre d'emplois de 141 salariés, comme c'était à l'heure du licenciement, évidemment, de Richard Ducrot. Alors, ça a été évidemment un pari difficile à tenir, pour la collectivité, parce qu'elle a supporté seule le poids à la fois intellectuel et financier de la remise en état des établissements. Et puis ensuite, il fallait trouver des entreprises.
Vous pourriez retracer un peu l'histoire, justement, entre la liquidation ici du site et aujourd'hui, cette journée de présentation des trois entreprises qui se sont installées.
Fermeture du site par le tribunal de commerce de Paris. On s'est retrouvé donc preneur de ce site immédiatement, la ville d'Alès et la communauté d'Aglo, pour le racheter, pour le réindustrialiser. Et ensuite, on s'est aperçu dans le cadre des transactions qu'une partie avait été déjà vendue à Fayat. Et une partie, malheureusement, qui se mélangeait. Les deux étaient imbriqués l'un dans l'autre et qui faisait que ce n'était nécessairement obligé et obligatoire d'avoir l'ensemble de la propriété. Alors tout le monde sait qu'à l'époque où Fayat a fermé, on n'y a pas fait des mamous. Mais plusieurs rencontres ont eu lieu, surtout avec le père Fayat, le patron, non pas ses fils. Je crois qu'il n'avait pas la même conception de l'entreprise, le père, que les fils. Il nous a permis de racheter sa propriété au prix qu'il avait acheté donc à Richard Ducrot à l'époque, 700 000 euros. Donc on s'est porté acquéreur de cette partie-là, ce qui fait qu'on est propriétaire de l'ensemble du site et qu'on a pu le remettre aux entreprises. Suite à cette première période-là, est arrivée la vente, comme on fait chaque fois, des liquidateurs. Donc pour éviter ça, elle a fait intervenir au tribunal de commerce de Paris pour racheter la partie nécessaire à la continuité de l'entreprise, c'est-à-dire le gros matériel, les grosses presses, les gros ponts roulants, etc. C'est ce que nous avons fait. Et j'ai pris la responsabilité de racheter le matériel n'étant pas chez moi. Je crois que si on ne prend pas de responsabilité en politique, on n'avance pas. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas dépasser les normes du droit, mais je crois que là, il y avait un cas de force majeure. Et effectivement, j'ai dit au service, on y va, on rachète. Alors c'est vrai qu'on avait des contacts déjà avec les entreprises qui nous ont fait cibler tout le matériel qui leur était nécessaire. Et les choses sont concrétisées. Donc avec une entreprise qui nous arrive du ZES en demeure de quitter le site, donc elle aurait pu partir à Marseille ou ailleurs, je crois qu'on a eu la chance de rentrer en contact avec eux. Et en plus de trouver trois entreprises qui travaillent ensemble sur la même fonctionnalité, qui veut dire qu'ils se complètent bien, et c'était l'idéal pour nous. Donc un peu de chance, beaucoup de travail, et un grand coup de chapeau, c'est vrai, au service, dont la réactivité a été rapide, et ils m'ont permis effectivement de tenir administrativement, financièrement, heureusement d'ailleurs, que la collectivité, contrairement à ce qu'on dit, comité d'agglo, avait 4 sous de côté, parce qu'à l'heure où les banques ne prêtent plus d'argent, il a fallu quand même investir pas mal d'argent pour acheter tout l'ensemble. Et on a pu faire face, au niveau trésorerie, évidemment, à l'achat de tout le matériel et des sites pour le remettre aujourd'hui à disposition. Plus des travaux, évidemment, que vous avez vu, qui sont en train de se réaliser sur l'extérieur, où pour faciliter la sortie des grandes pièces, on est en train de démolir toute la vieille partie de Richard Ducrot, et qui va permettre de faire 3 voies pour que les grosses pièces puissent sortir rapidement pour rejoindre la route de Mayen ou la route de Nîmes. Et ensuite, pour désengager le troisième bâtiment qui est derrière, la troisième entreprise, on va refaire la petite rue qui est derrière pour la mettre à 7 mètres aussi, qui en même temps désenclavera le quartier de Cognac.
Aujourd'hui, les trois entreprises installées sur cet ancien bastion ouvrier travaillent en synergie, car ce site possède, aux yeux de Frédéric Vallat, le directeur de 2 des entreprises nouvellement installées, plusieurs atouts.
Les atouts d'Alès, c'est qu'on avait donc besoin de mettre en place notre projet rapidement, puisqu'on avait des commandes à honorer et des clients à satisfaire. Donc il fallait trouver une solution rapide. On avait des solutions sur d'autres zones du Gard, mais qui, en termes de délai, s'avéraient certainement trop longues. Donc on a eu la réactivité sur le bassin alésien qu'on attendait pour arriver à mettre en place rapidement les choses.
Quels ont été vos soutiens pour cette installation alésienne ?
Soutien déjà du personnel, puisque tous les gens des entreprises qui ont été déplacés ont suivi. Et au niveau agglomération, le guichet unique d'Alès Mirapolis a été pour nous un facilitateur, c'est-à-dire que la structure des entreprises, on reste des PME, on n'a pas une structure de managériale hautement développée. Donc il me fallait des compétences locales pour m'aider dans l'établissement des projets, des plans de financement, des solutions techniques et financières. Et on a trouvé auprès d'Alès Mirapolis ce soutien-là et la mobilisation du personnel nécessaire pour trouver des solutions.
Alors vous n'êtes pas sur n'importe quel site, c'est un site dont l'histoire alésienne, l'histoire ouvrière alésienne qui compte, les établissements Richard Ducrot. Est-ce que vous avez eu l'occasion de réembaucher du personnel anciennement Richard Ducrot ?
Oui, donc que ce soit en embauche ferme ou en intérim, on a plus d'une douzaine de personnes qui sont des anciens Richard Ducrot. On a encore pas mal de demandes et de dossiers en cours, dont deux qui vont se concrétiser, je pense, dans les prochaines semaines. Donc la société Richard Ducrot a laissé des compétences et donc on en profite. Oui.
Donc vous dirigez deux sociétés et une troisième est sur le site. La particularité, c'est que vous travaillez en synergie avec cette troisième société.
L'objectif principal, quand on est arrivé sur le site et quand moi il m'a été présenté, ça a été d'essayer de trouver une solution globale, puisque nous ne pouvions utiliser que deux des ateliers. Une de nos grosses problématiques qu'on avait à USES, c'est qu'on travaillait avec un sous-traitant GTS pour tous nos travaux de peinture, et que la distance entre nos entreprises posait parfois des problèmes, puisque travaillant des pièces parfois de grande dimension, les transports étaient des choses compliquées. Donc pouvoir l'intégrer sur le site était pour nous un axe d'économie importante sur des aspects de transport et une flexibilité dans nos délais et dans nos plannings pour arriver à caler au mieux nos productions. Je savais que M. Sayahi de GTS cherchait depuis longtemps un site, et donc on a travaillé ensemble pour arriver à trouver des solutions qui leur ont permis d'intégrer l'espace et de concrétiser l'outil de production qu'il essayait de mettre en place depuis quelques années.
Un reportage réalisé par Yves Defago de Radio Grille Ouverte pour le Carnet de Région. Les salariés de la Banque de France étaient en grève cette semaine à Béziers. La structure qui emploie 25 personnes pourrait fermer définitivement ses portes en 2014. Un rassemblement de grévistes a eu lieu mardi en fin de matinée devant l'établissement de la Banque de France en centre-ville. Jean-Marc Raffin du syndicat Solidaire, joint au téléphone par Adrien Delgrange de Radio Pays d'Hérault, revient sur le rôle des services de la Banque de France et pourquoi cette grève.
La grève à la Banque de France est pour manifester notre opposition au projet qui a été présenté par le gouverneur Noyer et qui consiste à supprimer 2500 emplois au niveau national, une centaine au niveau régional, sachant que, si ma mémoire est bonne, nous avons déjà connu un premier plan de restructuration en 2003 où on a fermé la succursale de Sète, la succursale de Narbonne et la succursale d'Alès. Donc au niveau des plans de restructuration, la Banque de France a déjà largement donné. Voilà, et donc le prochain coup qui arrive, Montpellier reste en succursale de plein exercice, donc exercera la totalité de ses métiers, mais Béziers est parfaitement touché, puisque au 1er juillet 2014, la caisse de Béziers fermera, et s'en suivra le plan de restructuration puisque de la Banque de France, c'est-à-dire du réseau. En 2016, entre 2016 et 2020, la succursale de Béziers fermera définitivement. Voilà, donc il n'y aura plus de succursale de la Banque de France à Béziers.
Et donc vous êtes bien placé pour savoir en tant que représentant syndical des salariés de la Banque de France que par les temps qui courent, il faut faire des économies, y compris chez vous, alors pourquoi pas?
Alors écoutez, le plan qui est proposé ne fera pas faire d'économies, je m'explique. Ce que propose le gouverneur de la Banque, c'est de faire des transferts de charges. Concernant le surendettement, si vous traitez votre dossier à Perpignan, il vous faudra du monde pour traiter à Perpignan, et ça va être le cas, ou Montpellier ou Perpignan. Que vous les traitiez à Perpignan ou à Montpellier, il faudra du monde. Donc les mêmes personnes, si vous les gardez à Béziers, ce sera la même chose. C'est-à-dire qu'il faudra toujours du monde pour traiter des dossiers. Et il y a un bassin d'emploi quand même qui est relativement conséquent. Et un atout pour le Languedoc-Roussillon, qui est pratiquement la première région de France en termes démographiques. Donc une évolution jusqu'en 2040 qui est deux fois, trois fois supérieure à ce qui se passe au niveau national. Donc je pense que ça, il faut en tenir compte. Et donc se donner les moyens d'avoir un service public de qualité. Et Béziers mérite ce service public de qualité dans le cadre d'une antenne économique.
De nombreux élus locaux, de gauche comme de droite, dont le sénateur-maire UMP de Béziers Raymond Coudert, ont soutenu l'idée de garder les services de la Banque de France à Béziers.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Le ministre de l'économie sociale et solidaire, Benoît Hamon, était dans l'Aude lundi dernier à Carcassonne, puis à Narbonne. Nathalie Dessous de RCF Pays d'Aude était là pour le carnet de région. Elle revient sur cette venue.
Il est le premier ministre de l'économie sociale et solidaire en France, au service de toute l'économie générée par le monde associatif, les coopératives et les mutuelles. Il promeut un secteur d'activité longtemps en sommeil et pour qui il a une très forte ambition. C'est Benoît Hamon en visite dans notre département de l'Aude ce lundi.
Je vous le dis, votre secteur de l'économie sociale et solidaire va jouer un rôle clé dans la sortie de crise de la France. Parce que c'est cette année que les emplois d'avenir vont être mobilisés et c'est à la fin de l'année que le président de la République nous a fixé comme objectif d'inverser la courbe du chômage. Si nous l'inversons, Nous savons que ce sera beaucoup grâce à l'implication des collectivités locales et des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui sont éligibles au programme Emploi d'avenir. Plus personne ne pourra caricaturer ce secteur parce qu'il sera, lui, par sa mobilisation, un des responsables les plus éminents de la sortie de crise, donc du retour de la confiance. Si nous arrivons à cet objectif en fin d'année d'inverser la courbe du chômage, nous rétablirons durablement la confiance.
Dès le lundi matin, le ministre Benoît Hamon était à la communauté d'agglomération Carcassonne Agglomération pour honorer la signature de contrat d'emploi d'avenir pour l'agglomération ainsi que pour le conseil général.
570 jeunes à la fin de l'année auront un emploi d'avenir dans l'Aude. Et je me réjouis de la montée en puissance de ce dispositif et je veux saluer le rôle particulier de l'État. Je voudrais, puisque le président Dupré est là, dire que la grande différence entre ce que nous faisons et ce qui se faisait avant, c'est aussi dans ce programme la prise en compte du rôle indispensable des missions locales sur le terrain. Je veux saluer là aussi les différents professionnels engagés dans les missions locales. Ils remplissent une mission qui n'a rien de moins facile que de faire face au chômage des jeunes aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui on a des signes qui sont des signes de reprise pour la fin de l'année, mais on va avoir une année 2013 qui, sur le plan de l'économie réelle, va être une année difficile, nous le savons.
Une visite aux salariés de Pilpa, c'était l'incontournable pour le ministre de l'économie sociale et solidaire, Benoît Hamon. Les salariés réfléchissent d'ailleurs à l'éventualité de se réorganiser en SCOP. Comment ça marche une SCOP? Je vous propose l'exemple d'une SCOP carcassonnaise.
Une SCOP est pour notre cas une SARL avec des personnes qui ont des parts de participation dans l'entreprise et avec un gérant. Le gérant est salarié comme tous les salariés. La différence d'une SARL sous forme SCOP, c'est que le gérant, si jamais l'entreprise un jour avait des problèmes économiques qui étaient obligés de fermer, a droit à ses allocations chômage. Les grandes décisions dans une SCOP SARL ou SA sont prises lors de réunions à la majorité. S'il y a bénéfice, on peut faire un accord de participation de tous les salariés. Alors une grande ligne d'une SARL en SCOP par rapport à une SARL normale, c'est que l'entreprise, même si on a des participations, ne nous appartient pas réellement. La SCOP se communique.
L'innovation sociale, c'était l'objet de la visite de Benoît Hamon au Conseil général de l'Aude lundi après-midi. Il demande que l'innovation sociale soit soutenue par l'État au même titre que l'innovation technologique. Un concours a été organisé par le Conseil général sur cette question d'innovation sociale et 3 gagnants étaient primés ce lundi après-midi. Un projet de plateforme bois en Haute-Vallée de l'Aude, un projet sportif kitesurf à Le Cat et un projet de crèche d'entreprise à Lézignan. Ces candidats, comme 23 autres, ont répondu à des critères proposés par le Conseil général. On écoute André Viola.
Nous avons souhaité que les deux économies se parlent. Pour être valable, le projet devait émaner d'une équipe composée de 2 membres. L'un, bien évidemment, issu du secteur de l'ESS, en proprement parler, une mutuelle, une coopérative, une association ou une fondation, l'autre du secteur de l'économie dite traditionnelle. En combinant innovation sociale et dynamique territoriale, nous avons voulu faire émerger des projets qui contribuent à répondre à un besoin social, tout en créant ou maintenant de l'emploi et de l'activité économique.
Ce concours a rassemblé 23 dossiers, 7 dossiers retenus et 3 dossiers primés dotés de 20 000 euros chacun. Un exemple d'innovation sociale à suivre peut-être en matière de mobilité.
Donc nous, le projet était de créer sur Carcassonne et surtout le secteur urbain autour de Carcassonne un pôle mobilité à vocation sociale. Donc le projet est avec le centre social avec 11 et différents partenaires privés dont Renault, une auto-école commerciale ici sur Carcassonne. Était de donner à ces personnes la possibilité d'accéder à des véhicules, alors que ce soit avec permis bien sûr ou sans permis. Effectivement, il va falloir embaucher 2 personnes.
Un exemple de candidat au concours innovation sociale proposé à Carcassonne ce lundi. Et les remises de prix par Benoît Hamon, le ministre de l'économie sociale et solidaire, en visite. Il a assuré à tous les porteurs de projets qui étaient présents un accompagnement privilégié de l'État pour faciliter aussi le lancement de leurs propres activités.
Un sujet de Nathalie Dessousse de RCF Pays d'Aude. Cette semaine, le président de la région était en Lozère, à Mende, pour la traditionnelle cérémonie des vœux à la presse. À l'occasion de sa venue, Christian Bourquin a réaffirmé les axes principaux de travail pour l'année 2013 et un projet qui lui tient particulièrement à cœur, créer en Languedoc-Roussillon un réseau de la romanité. Pour cela, des moyens supplémentaires vont être alloués au site archéologique de Javol. Javol, ancienne capitale gallo-romaine de la tribu gauloise des Gabales, le site sera également mis en relation avec le Muréna de Narbonne et le musée de la romanité de Nîmes.
Il y a un boulot intéressant qui se fait sur Javol et je pense que les fouilles n'ont pas révélé tout ce que pourrait sous-tendre Javol. Il faut passer par cette case-là, c'est-à-dire que nous continuerons à donner les moyens pour qu'en été, ces fouilles continuent. Et vous le voyez, nous sommes en train de faire un réseau de la romanité dans notre territoire. J'ai lancé le Muréna, c'est-à-dire le musée régional de la Narbonne antique à Narbonne. J'ai donné mon accord également pour que la région participe fortement à la réalisation du musée de la romanité à Nîmes. Et il y a Javol, cet autre lieu historique fort impliqué dans l'histoire de la romanité. Et je souhaiterais qu'on puisse avancer fortement avant d'envisager, je dirais, la mise sur pied de quelque chose qui consacrerait la romanité en Lozère.
C'était Christian Bourquin au micro de Ludovic Thérol de 48 FM. Dans le cadre du schéma départemental de coopération intercommunale, la CDCI, la Commission départementale de coopération intercommunale, s'est réunie en préfecture de l'Hérault à Montpellier vendredi dernier. Parmi les sujets abordés, la création d'une grande intercommunalité dans les hauts cantons de l'Hérault. La CDCI a émis un avis favorable sur la mise en œuvre de la fusion des communautés de communes Avesnes-Orb-Graveson, Mont-d'Orb et Pays de Lamalou-les-Bains-Combé-Tossac, avec l'intégration dans le périmètre de fusion des communes isolées jusque-là, Bédarieux, Carvincas-et-Levas, Le Poujol-sur-Orbe et Pézennes-les-Mines. La mise en place de ce projet n'est pas simple, il divise sur le terrain. Si on est pour à Bédarieux, au Bousquet d'Orbe ou à Lunas, on est en revanche contre à Lamalou-les-Bains, Saint-Gervais ou Avesnes. Alors au cœur de cette intercommunalité qui regroupera 24 communes, 22 000 habitants, on pourrait retrouver la ville de Bédarieux. Le maire et conseiller général du canton, Antoine Martinez, a d'ailleurs repoussé la cérémonie des vœux à la population et aux forces vives pour attendre le résultat de la commission départementale de coopération intercommunale. On l'écoute au micro de Claude Durbézic.
Ces vœux sont tardifs parce que nous attendions l'avis de la commission départementale d'intercommunalité qui devait décider du sort de la nouvelle coopération intercommunale de Bédarieux sur les trois cantons de Saint-Gervais, Lunas et Bédarieux. La décision a été prise, les gens ont voté dans cette commission et nous sommes donc dans une intercommunalité sur un territoire qui regroupe les trois cantons et qui va nous permettre d'avancer et sans doute de trouver des solutions que nous ne trouvons pas chacun isolé dans sa ville ou dans son village. Donc grand moment autour de ce qui est aujourd'hui le territoire intercommunal autour de Bédarieux, des trois cantons de Saint-Gervais, je le rappelle, de Lunas, de Lamalou-les-Bains et une petite commune aussi Combe-Tossac. On va mettre en commun nos richesses, nos intelligences, nos difficultés pour essayer de construire un véritable territoire, ce que nous ne pouvons pas faire quand nous sommes isolés les uns et les autres. 24 communes, plus de 20 000 habitants. Nous allons pouvoir construire un projet élaboré qui devrait répondre aux besoins de la population, malgré les difficultés, parce que les difficultés, il y en aura toujours. Le président, il sera élu par le conseil communautaire. Il faut qu'on attende les élections municipales, puisque c'est à ce moment-là que seront désignés les futurs conseillers communautaires. Et ça dépend, bien entendu, de l'ensemble du territoire. Je ne m'aviserai pas à vous dire, moi, Antoine Martinez, je vais être président. Attendez, ce serait vraiment du super-ego. C'est pas mon style.
Et cette grande intercommunalité dans les hauts cantons, elle entrera en vigueur au 1er janvier 2014 sur un territoire qui compte 24 communes, 22 000 habitants et jusque-là 3 intercommunalités. L'habitat groupé se développe un peu partout en France. Il inclut un aspect de vie collective dans des micro-quartiers où chaque habitant vit dans sa propre maison. La plupart du temps, c'est cette collectivité qui est propriétaire du terrain où est construit le quartier sous forme de société civile immobilière. Par exemple, dans le Gard, à Saint-Hippolyte-du-Fort, la famille Bordarié possède un terrain de 8 000 m². sur lequel existe déjà une vieille bâtisse de 600 mètres carrés. Ils auraient pu vendre le tout à un promoteur sans se préoccuper du devenir de ce terrain. Oui, mais voilà, ils ont préféré entamer une autre démarche, celle de constituer un groupe de personnes qui souhaiteraient s'impliquer dans un projet d'habitat groupé et écologique. Yves Bordarier explique au micro de Rémi Goujon de Radio Escapade comment va se dérouler la mise en œuvre et pourquoi lui et sa femme n'ont pas souhaité vendre au plus offrant.
Elle n'avait pas envie que ce terrain soit utilisé de façon ordinaire, disons, par un promoteur qui aurait construit une série de maisons identiques. Nous voulions que ce soit utilisé dans un esprit de partage, un esprit de solidarité, mais aussi un esprit écologique. Bon, nous, on n'avait jamais entendu parler de ce terme et on n'était pas trop au courant. À l'automne 2012, on a découvert ce concept, cette notion. Ça nous a plu énormément. Ça correspondait vraiment tout à fait à notre souhait. Donc, on a fait venir M. Singer pour qu'il visite la maison et qu'il regarde le terrain. Et il nous a dit, bon, ben oui, je veux bien essayer. On se donne 6 mois pour voir si on est capable de rassembler suffisamment de monde pour bâtir un projet, un véritable projet. Et voilà, on en est là. On ne sait pas du tout, hein, ce sera un peu le groupe qui va se constituer, qui décidera de la façon d'utiliser et le terrain et la maison. On trouve vraiment cette idée-là extrêmement positive parce que ça permet l'entraide, ça permet au fond finalement de recréer l'ambiance qu'il pouvait y avoir dans certains villages il y a plusieurs dizaines d'années où les gens s'entraidaient de façon spontanée. S'il y a suffisamment de gens intéressés, on y compte bien, il devrait y avoir ensuite 4 réunions qui se passeront d'ailleurs dans la maison elle-même, à Croix-Haute. 4 réunions thématiques et qui vont parler du projet architectural, des finances, des problèmes juridiques, de l'organisation du groupe, et enfin, des valeurs, de ce pourquoi les gens se groupent et à quoi ils tiennent, qui devraient aboutir finalement à la création d'un groupe, d'une véritable association personne morale, qui ensuite deviendrait autopromoteur et le maître d'ouvrage. Donc là, normalement, toute la fin de l'année 2013, tout va être précisé, chiffré. À ce moment-là, on contactera un architecte pour effectivement faire les plans.
Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croussillon.
Et voilà qui clôture ce nouveau carnet de région, votre magazine d'actualité proposé par des radios associatives non commerciales du Languedoc-Roussillon. Moi, j'ai pris un grand plaisir à vous retrouver en ce début d'année pour assurer la rédaction en chef avec Radio Lodève de ce magazine la semaine prochaine qui prendra le relais. À très bientôt, au revoir.